petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Notre Constitution proclame que la République est une et indivisible. S'agit-il de refuser la sécession d'un territoire national? Dans ce cas, le séparatisme est interdit, évidemment. Ou bien alors, s'agit-il de l'unité et de l'indivisibilité d'une culture unique, la culture républicaine? En 2021, le séparatisme est le fait de modes de vie et de pensée contraires aux valeurs républicaines. Évidemment, tout le monde pense à l'islamisme radical, mais la loi se veut universelle pour se croire républicaine. Valable pour tous et pas simplement pour les terroristes potentiels. Est-il républicain d'obliger tout le monde à se dire républicain? La question est philosophique, mais peut paraître un sophisme, car imposer la République ne peut pas aboutir à une dictature, puisqu'il s'agit de défendre la démocratie. Ne pas tolérer l'intolérance est formellement une intolérance, mais tolérer l'intolérance laisse aussi place à l'intolérance. Et pourtant, la loi contre le séparatisme, qui s'appelle « loi confortant les principes républicains », ne va pas de soi. Même s'il est réconfortant qu'elle ait été votée en première lecture par une très large majorité de députés, plus large que la majorité habituelle. Déjà, l'idée de république est diversement comprise. Étymologiquement, la République est tout simplement la chose publique, ça n'engage à rien. Historiquement, la République s'oppose à la royauté et à l'Empire, mais très peu nombreux sont ceux et celles qui souhaitent revenir à un roi ou à un empereur. Ce fut un problème politique en 2021, le problème républicain n'est pas là. Mais alors, où est le problème? Il y a des quartiers périurbains qui sont séparés de la République parce qu'ils se revendiquent d'une autre identité politique et culturelle, d'une autre civilisation avec ses propres lois, d'un autre système de lois héritées de traditions ethniques et islamiques radicales. La loi de leur Dieu l'emporte, selon eux, sur les lois de la République. Mais d'autres questions, d'autres quartiers plutôt, hors la loi aussi, ne sont plus structurées par les islamistes, mais davantage par le trafic de drogue. Ce séparatisme est souvent lié au communautarisme, car les immigrés se regroupent tout naturellement en fonction de leur origine ethnique, et que la République a changé, ça a complètement échoué, sa politique d'intégration. Il y a des îlots hors de l'état de droit, au point que tout ce qui représente la République est violemment attaqué, la police d'abord, mais même aussi les pompiers. En fait, cette dislocation de la République ne se réduit pas à l'immigration. La société se délite et pratique le dégagisme. Dans l'archipel français, prix du livre politique en 2019, Jérôme Fourquet de l'IFOP nous décrit une France où les habitants et non plus les citoyens, se regroupent en communautés de proximité, communautés qui, au mieux, s'ignorent entre elles et, au pire, se haïssent. Supporters de clubs de foot, fans de tel genre de musique, chauvins de telle région, et même les catholiques, désormais minoritaires, qui se réfugient dans l'entre-soi, contrairement au conseil du pape François. Mais ces divisions profondes ne sont pas trop violentes ni dangereuses, du moins à court terme. Comme toujours, le projet de loi antiséparatiste est trouvé trop dur par les uns et trop laxiste par les autres. Ce projet de loi n'hésite pas à créer un délit de séparatisme, ce qui peut être bien, mais à condition de définir juridiquement le séparatisme, tâche difficile. Dans le monde de la culture et des universités, bannissons avec la loi la cancel culture qui se permet par exemple d'interdire une représentation des suppliantes d'Eschyle, tragédie vieille de plus de 2000 ans, parce que antiféministe, faut le faire ça, ou d'interdire même Charb, l'un des humoristes assassinés de Charlie Hebdo, décidément. Les clans font la loi comme dans les mafias. Les membres des forces de l'ordre devront prêter serment de servir avec dignité la République, former tous les fonctionnaires au principe de laïcité et les professeurs à l'enseignement du fait religieux. La hiérarchie scolaire devra mettre plus d'empressement à soutenir les enseignants critiqués et menacés jusqu'à porter plainte à la place des professeurs. L'incitation à la haine sur les réseaux sociaux en particulier sera punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Subventions étrangères aux associations cultuelles désormais très limité, y compris pour tous les cultes, alors que chacun comprend que la cible est un certain islam. Les subventions seront retirées rapidement aux associations et clubs sportifs en déviance fanatique. Les établissements scolaires privés hors contrat seront fermés si radicalisation il y a. L'enseignement par la famille, les enfants qui ne vont pas à l'école, sera soumis à une autorisation spécifique. Mais le point d'orgue sera désormais l'obligation d'un constat d'engagement républicain. Écoutez bien, constat d'engagement républicain pour chaque dirigeant d'association. La France profonde, la société civile organisée vont être placées sous surveillance de l'État. Dès maintenant, avant le vote définitif de la loi, certaines préfectures forment les responsables associatifs et élus divers aux principes républicains. Pourquoi pas? Mais qui est apte à former sur un concept politique, la République en l'occurrence, avec des opinions très différentes? Dans certains cas, ce sera la Fédération des œuvres laïques, souvent nie du laïcisme. Il y a là une sorte d'humiliation pour des militants associatifs qui ont des dizaines d'années d'engagement démocratique. Contre le terrorisme, c'est sans doute efficace. Mais alors pourquoi ne pas voter que cette loi soit temporaire. Sinon, à terme, une dictature n'aura même pas à changer la loi pour contrôler le peuple. Il y a un enjeu plus profond et contradictoire jusqu'à la schizophrénie. D'un côté, on s'appuie depuis 4 ou 5 ans sur le concept d'intersectionnalité. Intersectionnalité, c'est-à-dire ce qui est à l'intersection. Cela voudrait dire qu'on ne peut plus, mais c'est sans doute vrai, étiqueter les personnes, les ranger dans des catégories. Car il y a croisement d'appartenance. On peut être femme et noire, ou femme et blanche. Mais le féminisme ne sera pas le même, la femme noire étant indivisiblement, doublement discriminée, femme et noire. Mais s'ajoutent d'autres identités, l'homosexualité ou non, diplômée ou non, accent provincial ou non, avec ou sans enfants, riches ou pauvres, etc. Il n'y a pas que la société qui éclate, mais aussi chaque personne en elle-même. Mais à côté de l'intersectionnalité, on dénonce aujourd'hui un concept clivant, comme jadis celui de la lutte des classes, l'islamo-gauchisme. Là, au contraire, il n'y a pas dispersion, mais collusion des identités. C'est là que je parlais de contradiction. Une certaine gauche, en mal d'objectif, prendrait fait et cause pour l'islam politique, selon par exemple Laurent Bouvet, le catalyseur et la guerre pour la Palestine et contre Israël soutenue par les USA. C'est idiot, mais ça existe, même dans l'université, selon la ministre des universités. Intersectionnalité dispersante, islamo-gauchisme repliant. Que peut faire d'actuel, en 2021, la République ? Elle se raidit, elle transcende. Elle transcende même la démocratie. Car si un peuple venait à s'opposer démocratiquement à certains respects, à certains aspects de la liberté et de l'égalité, les valeurs de la République rendraient ce vote illégitime. Il ne faudrait pas que la République vienne à se prendre pour Dieu, sinon elle n'aurait plus rien à opposer à l'islamisme radical.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.